Pendant que Michel Bois est allé chercher Monsieur Calabre, qui va vous faire vous dire quelques mots de bienvenue, je voudrais simplement vous dire qu'un certain nombre de documents sont déjà à votre disposition en ligne. Certains ont pu les tirer, mais d'autres, on les tirera pendant ces 3 jours pour que vous les ayez aussi en couleur et en papier. Pour ceux qui sont nés du temps de Gutenberg comme moi, pour qui c'est plus facile, ça crève moins les yeux, ils se promènent, ils lisent dans le métro, des choses comme ça, qui peuvent moins facilement se faire avec des ordinateurs portables. Je vous ai aussi fait, pour une petite récapitulation historique, un petit mémorandum des évolutions des IO ou apparentés sur la lecture depuis 1833. Parce que j'ai décidé de remonter de plus en plus loin. Cet après-midi, je remonterai même probablement avant la Révolution. Alors, merci à tous aussi d'avoir répondu. On a dû limiter le nombre de personnes inscrites pour qu'on ait le temps d'avoir des échanges. Pour éviter que ça se transforme en grande conférence, on est sur des journées de formation et on compte que les échanges interstitiels seront aussi importants que les échanges pendant les temps d'échange formel. Merci à nos intervenants d'être là. Alors aujourd'hui, on a la belle brochette des psychologues du premier rang. Alors j'ai demandé pour ce matin donc à Laurence Riven et à Michel Fayolle de faire plutôt une rétrospective de l'évolution des recherches depuis qu'ils étaient tout petits chercheurs, tout jeunes chercheurs, jusqu'à maintenant chercheurs confirmés, mais pas encore usés. Donc ça va être un moment aussi intéressant. Et cet après-midi, donc, on aura 3 interventions. Liliane, j'étais très contente puisqu'elle a vraiment souhaité venir alors que c'était pas un colloque scientifique, mais une journée de formation de formateurs pour faire un peu le bilan de ses recherches actuelles sur les difficultés spécifiques de l'apprentissage de la lecture. Et alors, je voudrais dire que c'était un choix qui a été fait. Il n'y a aucun sociologue qui est invité pendant les 3 jours. Vous vous doutez que c'est pas du tout pour une question de refus de ma part. Au contraire, mais j'ai pensé que les lieux des débats de ces dernières années, et en particulier l'automne et de hiver 2005, hiver 2006, autour des problèmes de la lecture, avaient beaucoup tourné autour de l'apport des neurosciences, des problèmes de dyslexie, des problèmes de difficultés spécifiques, non spécifiques de la lecture, et qu'il fallait faire un point, une clarification sur ces questions. Le deuxième objectif qui va être surtout tenu demain, mais déjà aujourd'hui en lisière, c'est la question de la médiatisation. Parce que je trouve qu'une chose qu'on a ratée d'une certaine façon, je dis nous, les formateurs qui ont mon âge, il y en a encore un certain nombre dans la salle, c'est cette question peut-être de la médiatisation auprès des parents. Alors qu'on a été peut-être fait un gros travail d'interface pendant ces dernières années entre les lieux de formation et les lieux de la recherche scientifique, probablement du côté des médias, du côté du grand public, du côté des parents, les choses ont été clarifiées moins bien. Et du coup, on aura encore des difficultés sans cesse renaissantes. D'accord. Alors, Monsieur Calabre, j'ai bien fait de commencer, puisque Monsieur Calabre nous dira un mot demain. Aujourd'hui, il a été appelé ailleurs, donc il ne peut pas faire l'ouverture des journées. Donc, demain, ma question, pour moi, c'était l'objet sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse, parce que j'ai besoin de continuer d'apprendre là-dessus. C'est jusqu'à quel point on est légitime à simplifier des savoirs de recherche auprès d'un public de non-spécialistes sans risquer de produire des caricatures qui produisent l'effet inverse de celui qu'on souhaite, qui est exactement, je pense, ce qui s'est passé l'an dernier et qui se passera encore probablement dans les années qui viennent. Mais il faudrait avoir des principes ou des repères ou des critères qui permettent à des formateurs d'enseignants, à des inspecteurs, à des conseillers pédagogiques, à des instituteurs, des professeurs d'école faisant des réunions de parents, d'avoir un peu de biscuit de ce côté-là pour savoir qu'est-ce qu'ils sont légitimes à dire ou pas et comment assumer les conséquences, d'une certaine façon, de ce qu'ils disent. Ça me paraît être un enjeu peut-être beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 25 ans, dans la mesure où les parents demandent beaucoup plus des comptes, lisent des journaux et croient qu'ils savent. Donc ces enjeux sont devenus beaucoup plus brûlants, d'où la table ronde de demain après-midi et Franck Ramus qui sera là demain matin avec Michel Zorman pour parler des problèmes spécifiques des recherches actuelles neurosciences, s'est libéré, il espère, demain après-midi pour rester puisqu'il a fait partie des scientifiques qui ont été aussi comme il a instrumentalisés dans la relation aussi avec le ministère. Et puis le troisième jour, troisième matinée, on sera vraiment sur les problématiques de formation, c'est-à-dire dans le temps contraint des espaces de formation, qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité, qu'est-ce qui est les choses incontournables, pourquoi faut qu'on se batte, qu'est-ce qu'il faut qu'on réclame pour dire qu'on a besoin du minimum vital, donc c'est aussi dans une perspective qui est de réflexion sur on veut améliorer la formation des enseignants, j'ai vu dans les journaux, donc on peut faire des propositions de ce côté-là. Et comme les résultats de PISA, de PIRLS vont tombent, et comme de la pluie sur la francophonie, on a un bon créneau pour demander des choses. Alors, je vais laisser 2 minutes la parole aussi à Sylvie qui m'a aidée pour la mise en place et à Michel Fayol, je le remercie aussi pour la mise en place de ces journées, pour dire du côté des UFM, est-ce que elle vient de faire un colloque à Paris, enfin des journées de même type à Paris, pour que ça recoupe pas, quelle est la spécificité qu'elle y voit?
Ça risque de recouper, mais dans la mesure où on n'est pas exactement avec le même public, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Et c'est vrai qu'on a une centration qui est un petit peu différente ici, puisqu'on a introduit la dimension de la médiatisation qui n'était pas du tout présente dans les journées que nous avons faites à Paris. Alors moi, j'essaye simplement de voir quelques caractéristiques du contexte dans lequel se place ces journées. Il me semble qu'il y a 5 points qui caractérisent le contexte dans lequel nous sommes. De façon générale, je dirais une maturité scientifique dans un certain nombre de travaux de recherche qui vont être présentés là, puisqu'on peut faire des bilans sur 30 ans dans des secteurs qui sont tout à fait... Qui ont fait vraiment progresser la réflexion. En corollaire de cela, on voit aussi que dans d'autres domaines, c'est pas tout à fait un hasard s'il manque certains secteurs ici, s'il en manquait dans les journées que nous avons organisées à Paris, dans certains domaines, la recherche sur la lecture a été beaucoup moins investie sur l'apprentissage de la lecture, sur cette période-là. C'est-à-dire qu'on a vu les recherches... orientées vers le sujet lecteur et vers les pratiques d'enseignement de la lecture se développer très très fortement. En revanche, du côté sociologique, sociolinguistique, les focalisations concernent d'autres zones, concernent plutôt les lecteurs un peu plus âgés. Donc c'est vrai qu'on a ici un déficit. Mais donc je crois que le point scientifique que l'on fait, il est marqué par ce paysage-là. Le deuxième point qui peut-être peut nous intéresser, c'est qu'il y a eu également beaucoup de travaux qui ont été faits par ailleurs sur les discours de vulgarisation, les discours de médiatisation. Je crois qu'on sait de mieux en mieux les analyser, mais je ne suis pas sûre que nous sachions exactement les produire nous-mêmes, puisque nous avons des médiations à effectuer à différents niveaux. En tant que formateur, c'est une sorte de vulgarisation, de médiatisation que nous avons à faire. Et nous avons aussi à apprendre à faire cette vulgarisation auprès des familles. C'est quelque chose de très important, c'est ce qui suppose que dans la formation, on prenne en compte cette dimension-là. Le troisième point que je vais évoquer, c'est une capitalisation d'acquis en formation. Cela fait quand même un certain nombre d'années qu'à l'intérieur des instituts de formation, des expérimentations, des travaux ont été faits, plus ou moins reliés à la recherche, et c'est aussi le moment de les confronter à ces travaux et de voir aux travaux de recherche fondamentaux et de voir comment ils s'articulent. On a aussi une maturité de ce côté-là. Le quatrième point, c'est la crise de l'opinion. Alors c'est lié avec une crise qui a été bien entretenue. Pour pour différentes raisons et dont nous sortons, enfin, si nous sommes en train d'en sortir, très, très meurtri. Et je ne suis pas sûre que, qu'il soit facile de réparer quelque chose qui a été cassé, même si les sondages disent que 84%, je crois, enfin, des Français font confiance non seulement à l'école, mais à la formation des maîtres. Ce n'est pas le discours qui est entendu, qui est répercuté par ailleurs dans les médias. Et puis il y a enfin le dernier élément du contexte, qui est un changement institutionnel dans les lieux de formation, puisqu'ils sont rattachés à l'université. Ça veut dire que les IEFM sont rattachés aux universités, ce qui ne change rien dans leur fonctionnement, mais qui va certainement changer beaucoup de choses dans les recrutements ultérieurs. Et on risque de perdre une capitalisation qui a été faite si on ne peut pas présenter un dossier assez solide pour maintenir un certain nombre d'acquis. Ce qui ne veut pas dire être figé sur des positions du passé. Ça veut dire simplement clarifier, donner les grandes lignes, montrer qu'on sait faire un certain nombre de choses, que ce qu'on sait faire est en lien avec des recherches fondamentales, que c'est le produit de recherche et que ça a toute sa place spécifique dans un lieu qui est plus universitaire, au moins sur le plan institutionnel, que celui que nous connaissions jusqu'alors. Il va falloir maintenir le pari d'un mode de travail qui est à la fois vraiment ancré sur la pratique quotidienne, qui s'inscrit dans un cadre universitaire et qui est en lien avec les attentes du public. Donc ça fait trois pôles qui sont extrêmement difficiles à joindre. Mais c'est ce qu'on va essayer de travailler.
Bien, on va commencer tout de suite, Laurence. On va gagner 10 minutes. On a prévu des interventions confortables par rapport à celles qui sont d'habitude dans les colloques, qu'on, les gens aient le temps d'exposer ce qu'ils ont à dire, qui est beaucoup. Et après chaque intervention, on laissera très peu de temps de discussion pour reporter la grande discussion sur les orientations de la psycho cet après-midi, après l'intervention de Liliane. Donc, ce matin, bien sûr, quelques interventions, discussions après l'intervention de Laurence, mais on passera très vite à celle de Michel Fayolle, et après, on récapitulera tout ça dans la première partie d'après-midi.